Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Il pleut de l'argent, alléluia, il pleut de l'argent. Mais cela n'a rien d'un miracle. La French Tech plaît de plus en plus aux investisseurs et les licornes se multiplient comme des petits pains. Il se passe quelque chose dans la planète finance et le phénomène ne touche pas que la France. L'Europe a franchi en novembre la barre symbolique des 100 milliards de dollars levés par des startups en 2021, loin derrière les États-Unis, mais plus très loin de l'Asie. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des Échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour décrypter et analyser un fait de l'actualité économique, financière ou sociale. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'année folle de la tech made in France. God bless my bank account, he's raining money on it. I'm at the 7-Eleven, raining money on it. Il pleut de l'argent sur les startups, je le disais, et la pluie a fait naître des dizaines de licornes en France et en Europe l'an dernier. Plus de 100 milliards de dollars levés en Europe et plus de 10 milliards juste pour la France, un record qui rapproche notre pays de l'Allemagne ou du Royaume-Uni. La France a surtout vu naître 12 nouvelles licornes l'an dernier, de jeunes entreprises valorisées à plus d'1 milliard de dollars. La start-up Sorar, dont on vous a conté l'aventure fin septembre dans la story, a réussi la plus belle opération de l'année en levant 680 millions de dollars en une seule fois, juste devant Miracle et Canton Square qui ont levé plus d'un demi-milliard. Des niveaux dignes d'une entrée en bourse. Au total, 23 startups françaises ont levé plus de 100 millions de dollars l'an dernier, dont United Credit, Mano Mano ou encore l'assureur Alan. Mais quelle meilleure publicité pour le secteur que l'entrée en bourse réussie d'OVH Group. L'ex-licorne pèse près de 5 milliards d'euros sur Euronext et affiche un gain de plus de 30% depuis son IPO.
Il y a vraiment un tournant en 2021 qui s'est opéré au sein de la French Tech.
Guillaume Brégeras est chef du service Startup aux Échos.
L'ensemble des startups ont levé plus de 10 milliards d'euros sur les 12 derniers mois, ce qui est un record absolu, quasiment le double de l'année précédente. On n'avait jamais vu ça dans cet écosystème et ça reflète quand même tout un tas de choses structurelles qui sont bien parties pour durer.
Ce qu'on a observé en France, on l'a observé aussi en Europe ?
Et bien alors, le phénomène, il n'est pas franco-français, il est mondial, donc à l'échelle européenne. On parle de 100 milliards d'euros levés, donc 10 fois plus qu'en France, mais ça montre aussi le poids qu'a pris la France en Europe. Et aux États-Unis, c'est 330 milliards de dollars qui ont été levés. Donc le phénomène, il est vraiment global. Et la Chine mis à part, qui a vraiment connu une très forte pause dans ses investissements dans les startups, l'ensemble du monde a vraiment investi massivement dans ces jeunes entreprises technologiques.
Il y a une citation que j'ai retenue dans un de vos articles, Guillaume, elle est de John Collison, président de Stripe, devenue en mars dernier la deuxième plus grosse licorne du monde, c'est un groupe irlandais. Il y a 5 ans, nous pouvions réunir toutes les licornes dans une salle à manger et se plaindre du manque de géants. Maintenant, il nous faudrait un auditorium avec 321 sièges et l'histoire est complètement différente. 321 licornes en Europe au 1er janvier, dont 22 en France, et leur nombre ne cesse d'augmenter. Guillaume, quels sont les principaux moteurs qui poussent les investisseurs, notamment étrangers, à miser sur la French Tech ?
Il y a plusieurs éléments qui poussent effectivement les investisseurs étrangers à venir s'intéresser aux pépites françaises. Le tout premier, c'est qu'il y a une saturation aux États-Unis du nombre d'investisseurs et des fonds et des valorisations qui sont vraiment très très importantes. Et donc, ils cherchent de nouveaux territoires où aller piocher les futurs géants. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, les géants de la tech, ils naissent partout dans le monde. On connaît les grands exemples chinois, Baidu et Co. On connaît en Europe un Spotify ou un Adyen, en fintech ou dans la musique. Et effectivement, maintenant, les investisseurs américains ont compris qu'un géant de la tech pouvait émerger de partout. Et la France a beaucoup d'atouts historiques, comme un très fort terreau technologique qui favorise l'émergence de projets tech. Et maintenant que ça a été identifié, c'est plus la ruée vers l'or, comme ça a pu arriver dans d'autres siècles aux États-Unis, c'est la ruée vers l'Est et vers l'Europe, et notamment la France.
Cette année encore, la délégation française est très bien placée juste à l'entrée de l'Eureka Park, la section du CES consacrée aux startups, 140 entreprises françaises.
La France s'installe dans le top 3 en Europe, derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni. On l'a entendu, le CES de Las Vegas s'est tenu la semaine dernière avec une nouvelle fois un gros contingent de jeunes pousses nationales. Pourquoi est-ce que la France fait mieux que certains de ses voisins ?
Le CES, c'est vraiment un choix politique qui a été fait à l'époque de François Hollande, lorsqu'il était président de la République. Il y avait cette volonté de dire que l'écosystème était naissant, l'écosystème tech français, et qu'il fallait lui donner une vitrine. Et la vitrine mondiale à l'époque de l'innovation, c'était le CES de Las Vegas. Et donc, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits pour emmener des délégations entières de start-up là-bas. Et rapidement, en quelques années, ce contingent est devenu l'un des tout premiers contingents étrangers au CES représentant les start-up de son pays. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu moins le cas. L'attrait est moins évident aujourd'hui et on verra un peu comment ça va se transformer. Il est fort probable qu'il y a moins d'intérêt aujourd'hui pour les start-up françaises à aller au CES et qu'on en voit de moins en moins.
Et ça, c'est pour le CES. Mais plus globalement, la France rattrape-t-elle son retard sur les leaders européens ?
La France croît très vite, on l'a dit, doubler quasiment ses investissements entre 2020 et 2021. Mais les autres pays aussi. Donc, il y a un phénomène de rattrapage, mais qui n'est pas aussi important que ce qu'on aurait pu imaginer. Les investissements au Royaume-Uni et en Allemagne sont très forts et très dynamiques. Et c'est assez surprenant. D'ailleurs, au Royaume-Uni, tout le monde s'attendait avec le Brexit à ce qu'il y ait un vrai coup de frein, ce qui n'est pas encore arrivé. Et en Allemagne, il y a une autre mécanique qui fait que ça progresse aussi très vite. C'est qu'ils ont une capacité à faire des très gros tours de financement. Un Celonis a levé quasiment 1 milliard et ça tire l'ensemble de la machine avec des chiffres très importants. On n'a pas encore ça en France et c'est peut-être le dernier qui manque pour pouvoir commencer à rattraper très rapidement ces deux pays.
Oui, c'est vrai, ça c'est intéressant. En France, on a des licornes, ça y est, 23 avec la petite dernière PFIT, c'était il y a quelques jours, mais on peine encore à franchir le cap de ce qu'on appelle les décacornes. Pour quelle raison ?
C'est une raison tout simplement de timing, c'est-à-dire que pour créer une entreprise valorisée plus de 10 milliards de dollars, puisque c'est ça une décacorne, il faut du temps. Et donc là, la French Tech a réussi en l'espace de 2-3 ans à mettre un très gros coup d'accélérateur pour générer justement ces entreprises valorisées plus d'un milliard, donc les licornes. On en est à 23, on sera à 25 avant la fin du mois de janvier. Et pour rappel, Emmanuel Macron avait fixé comme cap d'obtenir ces 25 licornes d'ici à 2025. Donc on va avoir 3 ans d'avance sur cet objectif. Et donc, il va falloir encore un petit peu de temps pour arriver à ces décacornes. Il faut qu'elles se développent sur les différents marchés. Il faut qu'elles réinvestissent aussi. Il faut que les investisseurs continuent de leur confier des fonds. Et donc, il est fort probable qu'en 2023, on pourra avoir la première décacorne française.
Oui, ça va tellement vite qu'à peine fini l'interview avec Guillaume, on apprenait la naissance d'un 24e élu, Encore Store, une place de marché pour les commerçants indépendants. J'avais justement demandé à Guillaume quels étaient les secteurs les plus dynamiques, les plus porteurs.
Alors, l'un des secteurs les plus porteurs et dynamiques, c'est la fintech. Donc, tous les services financiers, là, on voit qu'il y a vraiment une accélération là-dessus. C'est un mouvement mondial et la France en bénéficie. On parle d'un Swile, d'un Conto, d'un Payfit. Voilà, des entreprises très B2B puisqu'elles s'adressent aux entreprises et elles offrent des services financiers qui sont souvent innovants, voire très innovants, et en rupture avec ce que peuvent proposer les acteurs traditionnels de ces marchés.
Comment se présente 2022 après une année 2021 qui restera dans les mémoires ?
2022, si on suit la courbe de ce qui se présente là sur les premières semaines, il est fort probable qu'on arrive encore à battre le record des 10 milliards. C'est assez fou à s'imaginer, mais pour l'instant, en tout cas, la trajectoire, elle est plutôt dans ce sens-là. Et encore une fois, la logique de cet écosystème qui consiste à continuer de financer des acteurs qui se développent bien, mécaniquement, les licornes vont être amenées à relever. Normalement, ça devrait générer encore des investissements et du coup, des emplois derrière. Et ça, c'est important de le rappeler. Les levées de fonds servent avant tout à créer des emplois.
Vous parliez d'une ruée vers l'Est des investisseurs, notamment américains. Ça va se poursuivre ?
Et ça, il n'y a pas de raison que ça ne se poursuive pas. Il y a grosso modo une douzaine d'investisseurs américains qu'on voit régulièrement sur les deals en France et en Europe. Et il est fort probable qu'il y en ait de nouveaux qui arrivent, puisqu'on voit bien que ces investisseurs américains arrivent à financer des entreprises françaises qui ont déjà une aura internationale et qui ont connu des succès. Donc, mécaniquement, ça va en attirer d'autres.
On vise une rentabilité à court, moyen et long terme grâce à une idée innovante que personne n'a jamais eue.
Tu appuies sur le bouton, l'eau s'évacue, évacuation des déchets.
Mais c'est une chasse d'eau, ça existe, hein ?
Oui, mais alors nous, en fait, elle est connectée par Bluetooth avec une application e-chasse. Révolutionnaire.
10 milliards d'euros levés en un an pour les startups françaises et 2022 a démarré sur les chapeaux de roue. Bon, pas sûr que la startup de Frangeau, Urbain et Paul Mirabel arrive à se transformer en boîte à cash, en machine à fric. Mais au fait, pourquoi les investisseurs dégainent-ils aussi facilement le chéquier en ce moment? Pourquoi investissent-ils des tickets aussi importants pour la French Tech? Sur les conseils de Guillaume, j'ai appelé Stéphanie Hospital, fondatrice du fonds de capital risque One Ragtime. Elle a été nommée à 3 reprises parmi les 50 femmes les plus inspirantes de la tech en Europe. Je lui ai d'abord demandé si elle avait été surprise par les montants levés en France par les startups.
Non, je crois que c'est l'évolution de tout ce qu'on a construit ces 10 dernières années ou même 20 dernières années dans l'écosystème. Et donc là, on commence à en voir les fruits. Et j'imagine que 2022 va être encore plus spectaculaire en termes de montants levés et de réussite de nos entreprises tech.
Il y a beaucoup de concurrence, on le voit. C'est plus compliqué aujourd'hui de rentrer dans un tour de table.
Tout dépend. Il y a de la concurrence sur des entreprises quand elles arrivent à un certain niveau de maturité. Quand on investit au moment où nous investissons, c'est-à-dire comme premier investisseur professionnel dans les sociétés, il y a un petit peu moins de candidats parce que c'est beaucoup plus risqué. Donc, il faut savoir particulièrement choisir les sociétés et les accompagner. Par contre, dès qu'on arrive sur des sociétés qui commencent à montrer des signes de traction ou qui sont, elles, passées du côté vraiment très fort d'une certaine croissance, là, à ce moment-là, tous les fonds internationaux veulent rentrer dans les sociétés et là, ça devient très, très compétitif.
Est-ce que vous êtes autant ou voire plus sélectif qu'il y a 2 ans?
Alors, on a surtout une qualité globale des entrepreneurs qui a profondément évolué ces dernières années. On a des entrepreneurs qui sont très ambitieux, très internationaux, qui ont envie de faire des très grosses sociétés. Et je pense que d'une manière générale, le niveau des sociétés et des entrepreneurs est bien plus ambitieux hein, en termes de volonté de se développer, de volonté de faire gros. Donc, c'est ça la différence. Donc, il y a plus de choix, mais il y a un choix d'excellente qualité. Et là encore, hein, le talent des investisseurs, c'est d'arriver à choisir des sociétés au bon moment pour les accompagner, pour maximiser la création de valeur pour les entrepreneurs, mais aussi pour les investisseurs qu'on représente.
Est-ce que la crise sanitaire a changé quelque chose dans l'état d'esprit des créateurs d'entreprises?
Je crois qu'on a eu la chance en France d'être particulièrement bien accompagnés par l'État français, par la BPI, par tous les dispositifs mis en place autour des PGE. Et c'est vrai que, et on l'a bien vu, hein, moi je suis aussi board member de France Digital, on a eu un accompagnement sans précédent de l'écosystème numérique qui fait qu'aujourd'hui, on peut pleinement profiter du rebond. Donc la crise, le Covid, ça a été un accélérateur de là où on est aujourd'hui parce que on a un État et on a des pouvoirs publics qui ont pris conscience de la nécessité de soutenir le numérique pour avoir une certaine souveraineté, mais aussi pour attirer des talents et créer in fine de l'emploi sur le secteur.
Cette crise sanitaire, elle a aussi changé quelque chose dans les comportements des investisseurs?
Alors oui, et d'ailleurs on l'a vu hein, au premier confinement, au démarrage du Covid, on a des investisseurs qui ont tout arrêté. Et puis il y a ceux qui ont continué. Alors nous, on a fait partie de ceux qui ont continué. Hein, et je crois que c'est aussi une des forces des investisseurs, c'est de pouvoir être dans la continuité. Donc on a certainement quelques investisseurs qui ont perdu leur attrait pour des entrepreneurs en ayant ce comportement, en n'étant pas consistants dans leurs engagements. Aujourd'hui, on voit que bah ça y est, les start-up tech, déjà, elles ont pu accéder à de la dette, ce qui n'était pas le cas avant le Covid. Donc, ça a d'autant plus augmenté les capacités de développement de nos sociétés. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un écosystème qui est à la fois plutôt très mature en termes de financement, mais surtout, comme je le disais auparavant, très mature en termes d'ambition et de qualité des entrepreneurs.
C'est marrant, à vous entendre, on a l'impression que cette crise a finalement été une chance pour l'écosystème.
Non, je dirais pas ça, parce qu'elle a été très inégale. C'est-à-dire que c'est une crise qui était terrible parce qu'elle a renforcé les inégalités. Est-ce que j'ai choisi le bon secteur d'activité? Non, j'opère dans l'hôtellerie ou dans la restauration ou dans le commerce de détail, c'est pas forcément optimal. Donc cette crise, elle a accentué les différences, les inégalités. Mais en même temps, pour certains entrepreneurs placés sur les bons créneaux, elle a été un accélérateur des usages liés au digital. Donc forcément, un accélérateur pour des entreprises dans le domaine des jeux vidéo, de l'optimisation du travail à distance, de l'optimisation des processus. Donc c'est clair que certains ont gagné et d'autres y ont perdu. Donc on ne peut pas dire que ça a été gagnant dans l'ensemble, mais ça a été fortement créateur d'inégalités pour certains et en même temps d'opportunités pour d'autres.
Les Échos ont publié il y a quelques jours les résultats d'une étude du Galion Project sur le salaire fixe annuel brut des fondateurs de start-up. On voit que ce salaire a bondi de 30% en 2 ans. C'est un juste retour des choses pour vous ou c'est une préoccupation ?
Non, je crois que ça fait partie de la logique des choses. Quand on est entrepreneur et qu'on a réussi à créer en quelques années une entreprise qui génère plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est profitable, qui a montré sa capacité à devenir un leader international, c'est logique que l'on soit rémunéré de manière conséquente au quotidien par rapport au risque qu'on a pris et puis à la création de valeur. Après, il faudra le surveiller sur les entreprises qui démarrent. Traditionnellement, dans des entreprises qui démarrent, les fondateurs ne se privilégient pas et ne lèvent pas des fonds pour se rémunérer, mais lèvent des fonds pour créer des emplois, pour pouvoir développer leur société. Donc, il faudra être vigilant sur les effets de bord, sur les premiers tours de financement. Et puis, il y aura aussi un sujet, c'est l'attraction des talents. C'est qu'on voit, on commence à voir des entreprises comme Payfit, notamment, qui vient d'attirer l'un des anciens grands pontes d'Amazon. C'est très clairement là que ça va se jouer. Et là, on va avoir une inflation des salaires, bien évidemment, pour se mettre au niveau des montants de salaire attendus par ces cadres de haut vol à l'international.
3,5 milliards d'euros, c'est le montant de cette licorne, comme l'on dit. OVH Cloud est une entreprise de services informatiques spécialisée dans la gestion des serveurs de sites Internet, un fleuron de la tech française.
2021 a été une année record pour la French Tech, comme on a pu l'entendre avec Guillaume Brégeras. Mais il y a eu aussi un événement marquant l'an dernier, c'est l'entrée en bourse d'OVH Cloud. Ça, c'est un message d'encouragement pour toute la French Tech.
C'est très fort. Et d'autant plus que l'entrée en bourse d'OVH a plutôt été couronnée de succès. On voit aujourd'hui la capitalisation boursière a accru de 30% depuis l'introduction en bourse. Donc c'est un symbole très fort. C'est aussi le symbole qu'il y a différents modèles de développement. Je crois qu'Octave Klaba, au début, a choisi un modèle de bootstrap, un modèle de développement par sa propre rentabilité, plutôt que d'aller tout de suite lever des fonds pour démarrer. Et donc ça, c'est aussi un signal très encourageant. Ça montre qu'il n'y a pas qu'un seul modèle d'ultra levée de fonds très tôt, mais qu'on peut aussi faire différemment, développer une entreprise sur un modèle plus classique en choisissant une croissance rentable. Et puis, quand on a atteint son point de maturité, ou en tout cas en ne levant pas trop de fonds, d'aller ensuite chercher des fonds pour complètement internationaliser le modèle. Et je crois qu'il faut rendre honneur aux équipes d'OVH parce qu'ils réussissent à s'imposer dans un secteur qui était pas évident du tout, qui aujourd'hui prend d'autant plus ses lettres de noblesse dans un moment où on cherche des solutions européennes et on cherche à retrouver une certaine souveraineté numérique.
Stéphanie Hospital, qu'est-ce qui manque encore à la French Tech pour venir titiller la Silicon Valley ?
Attirer des talents internationaux. Il faut continuer encore, il faut faire que quand on est un entrepreneur international, qu'on a envie de créer son entreprise, on se dit « je viens la créer en France ». Tout comme dans les années 2010-2000, on se disait « pour réussir, il faut aller aux États-Unis ». Là, il faut montrer que c'est possible pour un international de créer en France et je crois qu'on y travaille tous. Il faut attirer des talents internationaux parce que là encore, sans talent, on ne créera pas les conditions de développement de nos entreprises. Donc, il faut être capable d'attirer ces talents internationaux, quelle que soit leur localisation. Mais en tout cas, il faut pouvoir les attirer dans des entreprises françaises, européennes. Et puis, il faut créer aussi les conditions d'un marché de l'exit, des sorties, puisque in fine, à un moment, quand on est investisseur, que nous, on injecte des fonds dans des sociétés, c'est pour un moment pouvoir en sortir. Et aujourd'hui, on a un marché des sorties qui est encore trop, je dirais, léger. On n'a pas encore beaucoup d'entreprises qui développent des logiques d'acquisition de petites entreprises. Donc, il faut que nos géants de la tech qui se constituent commencent à elles-mêmes à devenir des acquéreurs de sociétés. Il faut que nos grands groupes puissent elles-mêmes consolider et racheter des entreprises. Et puis, il faut qu'on ait un marché des introductions en bourse, que Euronext joue pleinement son rôle.
Vous allez être attentive aux élections présidentielles à la campagne en cours ?
Bien sûr, on espère une continuité dans ce qui a été fait parce que ça fait 10 ans qu'on voit les fruits d'une politique volontaire sur l'économie numérique, tant au niveau fiscal qu'au niveau conditions sur l'emploi, que dans le cadre des dispositifs d'aide tels que le GIE, le statut de jeune entreprise univante, ou les différents mécanismes tels que le CIR. Donc ça, c'est super. Il faut que ça continue. Et on voit aussi aujourd'hui pas mal d'États européens qui commencent à nous copier, ou en tout cas à s'inspirer de ce qui a été fait en France pour le faire chez eux. C'est le cas de l'Italie, c'est le cas de l'Espagne. Donc ça montre aussi que on a eu raison d'anticiper et qu'il faut qu'on continue sur cette lancée.
Le numérique qui est l'un des grands absents du débat politique, constatent d'ailleurs les entrepreneurs du secteur. France Digital a publié en novembre un manifeste de 37 propositions en vue de la présidentielle afin d'alimenter les débats. et elle a prévu un grand oral des candidats début mars. On en reparlera dans la story. Merci à Stéphanie Hospital, fondatrice du fonds de capital risque One Ragtime, et merci à Guillaume Brégeras, chef du service Startup des Échos. Vous pouvez retrouver toute l'actualité des jeunes pousses dans la newsletter Startup des Échos de Charlie Perrault, du lundi au vendredi. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Le podcast des Échos est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.